Voilà, deux invités sont venus nous rejoindre dans les studios de Radio Shalom. C'est un véritable honneur de recevoir Sophie Cohen Ben-Dor. Erev Tov, Sophie. S'il vous plaît, faites attention au micro. Donc c'est vraiment du direct. Sophie est l'aînée des enfants de Eli Cohen, l'espion de légende de l'histoire d'Israël. Elle est accompagnée par Valérie Pérez-Enouchi. Bonsoir Valérie.
Bonsoir.
Valérie, c'est aussi un honneur de vous recevoir, mais c'est surtout un plaisir parce qu'on vous connaît bien et parce qu'on a le plaisir de vous avoir en ligne régulièrement, vous qui êtes rédactrice en chef de I24. Et toutes les deux, vous avez produit un livre qui, me dit-on, a pris 6 ans pour être écrit, c'est vrai?
C'est ça, six absolument. Ans,
hein. Et c'est la première fois. C'est des révélations de vous, Madame Cohen Ben-Dor, j'allais dire Madame Cohen, vous êtes la fille de Eli Cohen, pour nous parler de ce héros de légende du Mossad, qui, on s'en souvient, on le sait, donc s'est infiltré à Damas, ensuite a été exécuté à Damas, et représente aujourd'hui la légende d'Israël. Et d'ailleurs, au niveau, comme on dit, l'astronaute Ramon, comme on dit, voilà, il y a quelques légendes israéliennes, il y a Eli Cohen. Et d'après vous, on va venir évidemment sur le livre tout de suite, qui est paru aux éditions Ramsey. Pourquoi, d'après vous, à ce point-là, c'est rentré dans la légende?
Je pense que
le mythe, c'est le combat d'un homme qui fait tout, total, sans s'économiser, sans penser à lui, donner son âme, comme on dit. Et c'est ce qu'il a fait, de manière totale, engagée, courageuse. Je pense que ce courage, comment il a osé arriver là où il est arrivé, seul, ça remue beaucoup de gens. Ils rentrent dans ses chaussures par imagination, ils disent, mais comment j'aurais pu faire ça seul? Moi, je suis avec mon unité à l'armée, avec mon groupe, mais seul. Seul à Damas, ça, c'est quelque chose d'incroyable. J'ai lu d'ailleurs dans le journal Le Point, vous êtes place Tel Aviv, d'ailleurs vous êtes en train de manifester place Tel Aviv, place Rabin à Tel Aviv, il y a quelqu'un qui vient et vous embrasse comme si vous connaissez, parce que Eli Cohen c'est le père de la nation.
Oui,
c'est le père de tout le monde, c'est Eli de tout le monde, moi j'ai essayé de prendre mon père, de le sortir, mon père privé, mon papa personnel, mais j'ai dû partager avec tout le monde. Hein? Je dis, j'en connais que 3 ou 4 autres comme ça. Valérie, ça doit être génial de travailler sur un sujet pareil. Combien pendant 6 ans?
Pendant 6 ans, mais c'est-à-dire que avant tout, ça a été une histoire humaine, une rencontre avec Sophie, une amitié qui est née, qui s'est construite vraiment doucement. Et puis, j'ai été très touchée par l'histoire de Sophie, petite fille, l'histoire de Sophie, femme, sa construction en tant qu'adulte. En fait, dans ce livre, il y a 2 histoires en une. Il y a l'histoire de son père, avec, vous l'avez dit, des révélations, des documents qui ont été donnés par la famille. Et en fait, ils viennent du Mossad, ces documents-là. Donc, on a les vrais rapports de mission d'Eli Cohen lorsqu'il était en Argentine et lorsqu'il était en Syrie. Donc, on apprend beaucoup de choses. Parce qu'on a beaucoup parlé, mais sans preuve. Lorsqu'on parle d'Eli Cohen en Israël, vous allez chez n'importe qui, ils ont tous une anecdote à raconter sur Eli Cohen. Par exemple, moi, cette semaine, j'ai dit, ben voilà, je vais à Paris pour la promotion du livre. Il parle de quoi ton livre? Ben, d'Eli Cohen. Ah, mais je connais sa sœur, j'allais acheter des falafels chez elle.
Ah oui, donc, c'est vrai. Tout mais le les monde, Juifs, ils adorent faire ça.
Voilà,
les Marocains
tout le monde
aussi,
a quelque chose à dire sur Eli Cohen. Et dans chaque ville en Israël, il y a soit un stade, soit une école, soit une synagogue au nom d'Eli Cohen. Et en fait, là maintenant, les choses, elles ont été rétablies. C'est-à-dire qu'on connaît la vérité, on sait ce qui s'est passé et on peut vraiment répondre aux questions qui étaient, qui jusque-là étaient sans réponse. Donc ça, c'est la première histoire et c'est important pour moi en tant que journaliste, c'était une mission de dire la vérité. La deuxième histoire, c'est l'histoire de Sophie. Comment elle a vécu, elle? Elle avait 4 ans quand son père est mort. Elle s'est retrouvée finalement, c'était la grande d'une fratrie avec sa mère qui, encore jusqu'à maintenant, attend qu'on ramène son père. Elle attend le corps de son père. Elle est toujours folle amoureuse de son mari. Et Sophie, dans tout ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un travail sur elle, extraordinaire, puisqu'elle est maintenant psychanalyste. Et elle est devenue la femme qu'elle est devenue en prenant le recul nécessaire sur cette histoire pour pouvoir avoir une vie elle-même. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup touchée. Parce que là, on parle d'un espion, d'un héros national, tout le monde le connaît. Mais quand on est fille de star, fille d'acteur, fille de chanteur ou fils, on a un petit peu cette problématique. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Et on a passé vraiment un temps merveilleux ensemble à échanger, à parler. C'était plus des conversations que des interviews. On a
de
eu
femmes, de femmes. Ça
entre
joue le fait
femmes,
que ce soit deux femmes, oui.
He said between women.
Ben Nashim.
Yes.
Okay.
Yeah.
Et ça, c'était important parce que, franchement, j'ai ressenti très profondément. Ça a été une histoire intime. Une vraie histoire intime, une vraie rencontre. Et au-delà du livre, c'est l'histoire d'une vie.
Alors, il est tellement mythique que moi, je suis parti du principe que tous les auditeurs le connaissent. Non. Donc, il est formé par le Mossad, et il est envoyé en entraînement en Argentine. D'ailleurs, en Argentine, il en profite au passage, on dirait, je sais pas, on dirait amicalement vôtre, il en profite pour arrêter quelques nazis. Il apprend à être une espèce de personnage cosmopolite, haut en couleur, vous allez nous dire ça, Valérie, dans un instant. Il part à Damas, et là, il espionne, il donne des renseignements qui sont essentiels, qui sont historiques, et personne ne le voit, il est ami du pouvoir. C'est un roman de KPDK. D'ailleurs, est-ce que vous avez l'impression que c'est un roman, finalement, cette histoire?
Lolo,
non. Non.
C'est Abba.
C'est papa, c'est mon père. Il est trop près. Il vient, il voyage, il part. Qui est papa? Où est papa? Quel est le travail de papa? C'est trop près. Et votre maman, elle dit que c'était un homme qui était... Il arrivait à être gay dans des situations comme ça, parce que quand il repart à Damas, nous depuis, on a vu la guerre en Irak, en Syrie, on voit qu'on a vu, c'est des gens très très cruels. Il repart à chaque fois, il va dans la gueule du loup, quoi. Votre maman, comment elle vous a raconté ça après? Vous aviez 4 ans, il faut regarder les souvenirs qu'on vous a dit après. Comment elle voyait ça? Il était gay, elle sentait que c'était très dur ce qu'il faisait, ou bien il avait un esprit qui lui appartenait qu'à lui? Il a menti à ma mère. Il lui a dit qu'il travaillait dans une société qui travaille pour le ministère de l'Intérieur, de la Défense. Et il avait l'air très bien, tout à fait heureux, high, surtout d'ailleurs quand il arrivait en Israël. Il avait toujours cette façade, ce masque, jusqu'au dernier jour. Personne n'a vu qu'il était triste ou que c'était dur pour lui ou qu'il avait peur, à part le dernier voyage. Après la brite de mon frère, c'était en octobre, fin octobre 64, il ne voulait plus y aller. Il a compris quelque chose. Et il a dit, la terre fuit sous mes pieds, j'ai les mains en feu. Il était très, très nerveux, très, très nerveux. Je pense même qu'il a disparu à Bruxelles pendant 2 jours, 3 jours, alors qu'il était de retour vers Damas. Est-ce qu'il ne voulait pas y retourner? Je sais qu'on lui avait promis que c'était son dernier voyage. C'est ce qu'il a pensé. Mais quand j'ai parlé avec les gens qui étaient ses supérieur. Je lui ai dit, quand est-ce que vous aviez prévu de le ramener en France, de finir sa mission? Ils m'ont dit, non, mais c'était pas prévu au programme. Ouais, ouais. Parce qu'il était le meilleur, c'est le prix à payer.
Okay.
Au moment de partir, donc quand il s'est fait attraper, Eli Cohen?
Alors justement, il y a tout le mystère est autour de la capture d'Eli Cohen lorsqu'il était à Damas. Alors pendant des années, on a dit que peut-être il aurait fait une erreur au niveau des transmissions, des broadcasts de ce qu'il envoyait au Mossad. Seulement, un musée a été ouvert il y a quelques semaines à Ertilia, et le nouveau patron du Mossad a révélé un télégramme. C'est le dernier télégramme qu'a envoyé Eli Cohen au Mossad. D'abord, c'est un message qui n'est pas trop long, donc il n'a pas pu se faire attraper parce que le message était trop long. Et en plus de ça, Sophie a rencontré un certain Albert, qui est un vétéran du Mossad. Parce que depuis la parution du livre, il y a des choses qui arrivent tous les jours.
Ah
tous
oui.
les jours, on apprend d'autres choses. Donc pour vous dire à quel point c'est un personnage mystérieux. Et le fameux
Mais
Albert, qui recevait justement les messages de son père, lui a dit qu'il envoyait des messages tous les jours à
8h30. Mais c'est peut-être ça aussi.
Et que c'était impossible qu'il se fasse intercepter à l'époque.
Ah non, mais tu envoies des messages à la même heure. Les
mais
Russes,
oui,
ils
mais
ont fait ça, ils sont prêts.
Oui, mais justement, mais à l'époque, ils n'avaient pas le matériel qu'il fallait pour intercepter les messages. Il aurait fallu qu'ils soient pour qu'il puisse intercepter ce message. Donc en fait, c'est faux. On sait qu'il n'y a aucune erreur qui a été commise. No mistake has been done by your father. Aujourd'hui, on en est sûr. Et c'est vrai que c'est important de le dire parce que jusqu'à présent, la question demeurait encore en suspens. Comment il s'est fait attraper?
Mais vous qui avez... Parce qu'en fait, c'est des interviews et après, on a des documents, des photos, des documents. Vous l'avez pas vécu comme un personnage de roman. Vous n'êtes pas dit, mais attends, j'ai l'impression, il est ami du. En plus de ça, le personnage, il faudrait que je retrouve la description que vous en faites. Un personnage très complexe, à la fois socialiste, à la fois très riche. D'ailleurs, je me suis demandé en vous lisant qui paye.
Il vit à la cour du numéro un syrien avec un
mais
phare.
C'était sa couverture. Il avait la couverture d'être un homme d'affaires riche.
Mais on a l'impression de voir le comte de Monte Cristo ou un truc comme ça, quoi.
Ben, si vous voulez, moi j'ai rencontré Sophie juste avant la série Netflix. Elle a très mal vécu cette série de spy parce que ça ne correspondait pas du tout à ce qu'était son père. Son père, c'était un père aimant, un père tendre avec ses enfants. C'était quelqu'un de très modeste. C'était quelqu'un qui avait des goûts très simples. Et c'est vrai que la manière dont il était représenté dans cette série, bien finalement, c'était un James Bond 007 qui allait sur les toits, qui avait une vie vraiment d'homme riche, etc. Mais justement, quand ils sont rentrés chez lui, les Syriens, ils ont été étonnés de voir à quel point ils vivaient si modestement. Ils s'organisaient quand il y avait des soirées, mais le reste du temps, ils vivaient de manière très modeste. Donc c'était ça, Eli Cohen. Et en fait, la famille n'a pas du tout aimé ce film, et cette série, et la manière dont on...
Trop romancé. C'est pour ça qu'elle nous dit non, Sophie. Elle dit non, c'est pas un roman.
Non, c'est pas un personnage de roman, c'est juste son père. C'est juste quelqu'un qu'il aimait beaucoup, parce que c'était la grande de la famille. C'était quelqu'un qui était très tendre, qui était... qui n'avait rien du James Bond ou bien du personnage d'agent secret qu'on peut imaginer dans les films. Pas du tout.
Mais en plus, c'est une époque, hein. Tout le monde pleure cette époque. Tout le monde dit c'est l'époque où Menachem Begin il prenait l'avion, il dormait par terre, il n'y avait pas de première classe pour lui. Il était très humble, modeste, il pensait à l'argent de l'État d'Israël, du pays. Il ne voulait pas dépenser l'argent du pays. Vous avez joué ensuite d'abord à Faisal Assad, le dictateur syrien. Vous y avez écrit une lettre.
Le Bachar.
Bachar. Comment est-ce que Bachar est monté au pouvoir après son père? On a eu beaucoup d'espoir que c'était une nouvelle génération, qu'on ferait la paix, et que son père était très cruel, mais que là, on pourrait parler et faire des choses ensemble avec la nouvelle génération, la génération des enfants. Et je lui ai écrit, qu'on pouvait vivre ensemble. Et j'ai voulu aller vers son cœur, vers le côté humanitaire de la démarche, mais il a répondu que non. C'est déjà incroyable qu'il vous ait répondu. Il a dit viendra le moment. Il n'a pas eu beaucoup de commentaires. Et après, dans une autre occasion, il a dit qu'il y a on a construit un quartier d'une ville sur là où se trouve son corps. Je pense qu'ils avaient peur qu'on retrouve le corps, et donc ils ont fait exprès de construire dessus. Mais on ne sait pas, on n'en sait rien. Non, vous ne croyez pas ça, vous ne les croyez pas. Mais c'est déjà extraordinaire qu'ils vous en donnent. Mais il est possible, je fais appel à la journaliste, il est possible, c'est horrible ce que je veux dire, qu'ils veulent l'utiliser comme une monnaie d'échange, on voit ça au Proche-Orient.
Oui, mais enfin, ça fait longtemps qu'ils auraient pu l'utiliser comme monnaie d'échange. Et d'ailleurs, il y a eu une dernière information que Sophie a eue aussi après la publication du livre, comme quoi, quand justement Bachar al-Assad était au plus bas de son régime avec la révolution syrienne, il aurait fait appel à Israël pour l'aider justement à calmer les tensions dans son pays, en échange du retour du corps d'Eli Cohen.
Et d'ailleurs, elle dit dans le livre qu'elle regrette, qu'elle pense que c'est un peu fini, quoi. C'est-à-dire qu'on ne retrouvera pas le corps de son père. Je regrette que lors des échanges de prisonniers, Israël n'ait jamais demandé à récupérer le corps de mon père, dit-elle. Et aujourd'hui, je sens qu'il est trop tard. Je crois qu'il y a un aspect qu'on n'a pas abordé, c'est aussi l'aspect tout simplement du Mossad, qui ose. Le Mossad fait des choses, on voit bien que il intervient partout, sur tous les théâtres d'opération.
À la Mossad, mettons que c'est.
Je pense que le Mossad est un corps, un groupe créatif, courageux, fort. Ils sont toujours dans la remise en cause d'eux-mêmes de manière significative. Il y a là-bas c'est légendaire ce qu'ils font. On ne peut pas imaginer toutes les possibilités qu'a le Mossad, quelle force il a. Le Mossad est divisé en deux. Il y a ceux qui sont les gens de l'agence, qui sont de l'extérieur, et il y a leurs soldats, les gens du Mossad, ceux qui donnent leur âme pour nous.
Moi, ce qui m'a frappé, mais bon, je m'en doutais, c'est en le lisant qu'on est frappé, c'est de voir comment c'est une opération qui se fait longtemps à l'avance, on l'envoie d'ailleurs dans un pays qui n'a rien à voir, on ne devient pas espion du Mossad comme ça, hein, Valérie.
Non, on n'est pas espion du Mossad comme ça, surtout lui, hein, parce que on sait maintenant que lorsqu'il était en Égypte aussi, hein, il faisait partie du Mossad. Il a toujours œuvré pour Israël. Pour lui, il y avait une abnégation totale. Il a même abandonné ce qu'il était, sa vie, sa famille, pour Israël. Et d'ailleurs, Sophie se rappelle très bien de cette dernière fois où il est venu à la maison. Et il n'avait pas envie de repartir. Ouais. Mais il est reparti quand même. Donc c'est un homme absolument exceptionnel, un homme comme on n'en fait plus. Vous savez, quand on va dans les pays arabes autour d'Israël et puis qu'on regarde Israël de l'autre côté de la frontière, on ressent quelque chose. Et on se dit, mais lui, qu'est-ce qu'il a dû ressentir? Qu'est-ce qu'il a dû ressentir? Parce que non seulement il est resté là-bas longtemps, mais en plus il faisait partie du groupe, du clan. Donc c'était très compliqué. Donc oui, c'est vrai, un homme complexe, mais qui n'a jamais oublié qui il était. Par exemple, dans la série, on le voit revenir à Batiam et avoir un petit peu un trouble d'identité. Il ne sait plus si finalement il est à Damas ou bien s'il est en Israël. Pas du tout, il n'a jamais eu ça. Il savait très bien où il était. Il savait très bien qui il était.
Ce qui est encore plus dangereux, ce qui est encore pire, parce que on vous met face à un crocodile. Bon, vous arrivez à rester 10 minutes, je ne sais pas si vous y arrivez. Moi, je ne peux pas. Mais après, on vous dit non, mais vous allez vivre plusieurs années avec le crocodile. Et en plus, vous allez être conscient que vous êtes en face d'un crocodile. C'est invivable.
C'est ça.
Mais demain, comment il est fait, hein. Vraiment, bravo. On a été très, très honoré, Sophie Cohen-Bender, de vous recevoir, Mamache. Et Valérie Pérez-Enucci, qui est notre amie de journaliste et rédactrice en chef de I24. Donc, je rappelle, bah, merci à vous aussi.
Merci de nous avoir reçus, Bernard. C'est trop gentil.
Et Eli Cohen, le héros du Mossad, un livre paru aux éditions Ramsey. Alors, on dit Ramsey ou Ramsey?
Ramsey.
Ramsey, c'est comme les gens qui disent Israël, je ne porte pas, et je fais pareil, vous voyez. Et alors donc c'est Ramsey, j'ai encore mieux, il y a les gens aussi qui disent, j'ai fait un article sur l'Israël. Non, je ne vais pas si loin. Par contre, j'ai remarqué avec intérêt que Eli s'écrit sans E, mais ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux noter, c'est que voilà, il y a les fêtes de Toubishpat qui arrivent, on a toujours envie de venir avec un petit cadeau quand on arrive à la maison. Et bien c'est une très bonne idée, surtout que la vraie fête où on veut offrir des choses et des fois on sait pas quoi faire, c'est Pourim qui arrive. Et donc voilà une très bonne idée de cadeau quand on va en famille et qu'on veut être un petit peu différent que d'amener ce qu'on a l'habitude de faire. Eli Cohen, le héros du Mossad, aux éditions Ramsey, co-rédigé par Valérie Pérez-Enucci et Sophie Cohen-Bender, qui est la grande fille de ce mythe israélien. Mesdames, bonsoir à vous, Toda Rabah,
Toda Rabah, merci beaucoup.